Voilà, donc aujourd'hui, on va lire et étudier un peu un psaume. Et c'est le psaume 45 qu'on va voir ensemble. Et ce psaume a beaucoup de choses à nous dire pour nous aujourd'hui, pour cette année 2008 aussi, comme vous allez le voir. Alors, avant de lire le psaume 45, j'aimerais vous donner quelques points sur les psaumes et combien ce texte-là, mais comme les autres psaumes, peuvent aussi nous enrichir. Vous savez tous que les psaumes, ce sont des prières. Hein, ce sont des prières chantées. Parfois, on n'a pas trop l'habitude de chanter la prière. C'était des prières chantées lors des cultes, et les psaumes, ces prières-là, ont été écrites sur 1000 ans. Sur 1000 ans. Donc, beaucoup d'auteurs. Bien sûr, vous connaissez l'un des principaux, c'est David. Mais David n'a écrit que la moitié des psaumes, un peu plus, mais il y a beaucoup d'autres auteurs. Et celui qu'on va voir, le psaume 45, il a été écrit par des Lévites, des descendants de Lévites, les fils de Corée, des familles de chantres. Vous savez que c'était par famille. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, je crois que Dieu est un Dieu des familles, et je crois qu'il a quelque chose à faire avec les familles encore aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de sortes de psaumes, hein, vous les connaissez. Il y a les psaumes de supplication, des psaumes de reconnaissance, des psaumes de confiance, des psaumes de louange, des psaumes d'instruction, par exemple le psaume 1, hein, il instruit le peuple de Dieu. Et vous avez aussi des psaumes royaux. Et ce qu'on va voir, c'est justement un psaume royal. Pourquoi royal ? Parce qu'il parle du roi. Quelques-uns comme ça sont axés sur la personne du roi. Le roi d'Israël, bien sûr, mais derrière le roi d'Israël, il y a notre roi. Il y a le Messie, il y a Jésus. Alors, ce psaume royal, les psaumes royaux, sont un peu particuliers parce que justement, ils annoncent, ils parlent du Seigneur Jésus. Ils sont des psaumes messianiques. Ils parlent de la descendance de David. Et la descendance de David, ça va être notre Messie. Alors, les psaumes, c'est une extraordinaire variété de prières. Hein. Et vraiment, je vous invite à prier avec les psaumes. Parfois, on prie à Dieu, puis nos paroles s'arrêtent assez vite. Et les psaumes sont là pour que nous puissions prier les paroles des psaumes. Vous savez qu'il y a une façon de prier qui est de prier avec la parole de Dieu. Et les psaumes sont là pour nous enseigner à prier. Donc, diversité de prières, et ces prières, elles témoignent de la variété de l'expérience de la vie. Vous avez des coups durs, et alors il y a des cris qui remontent à Dieu. Vous avez parfois des gens qui sont révoltés, les choses ne bougent pas comme on voudrait, il y a de l'injustice. Et alors, c'est un autre psaume. Donc chaque fois, ces paroles des psaumes correspondent à des expériences de la vie, et il y a une telle palette de variétés, c'est la vie même que les psalmistes priaient, et Dieu nous invite à prier ainsi aussi, notre vie. Voyez, il y a toute la gamme d'émotions, il y a la colère, la frustration, il y a la joie, il y a l'humiliation, il y a tous les sentiments. Vous savez que Dieu est un Dieu qui aime que l'on exprime nos sentiments. Et les sentiments s'expriment dans les psaumes de façon très variée. Et vous savez ce qui est important aussi, là je parle aux élèves qui sont là, les élèves qui vont aussi, que ce soit en collège ou lycée ou même université, c'est que les psaumes, ils manifestent une chose, et on va le voir en particulier pour le nôtre, ils manifestent que non seulement Dieu... On cherche à donner le meilleur de ce qui est dans nos cœurs, l'expression véritable de nos cœurs. Mais les psaumes manifestent que ce n'est pas seulement le contenu, mais il y a un effort pour dire quelque chose de beau, de bien écrit, de bien formulé, de poétique. Les psaumes sont poétiques. Et donc, là, on a quelque chose. Dieu, il aime aussi qu'on donne le meilleur. Quand on est musicien, ça va être une belle musique. Et je crois qu'un peu chacun d'entre nous, on est appelé à aussi faire des belles prières. En tout cas, la forme des psaumes, le rythme, le choix des syllabes, le choix des débuts des psaumes, le choix des rimes, tout ça, c'est pour offrir à Dieu le meilleur. Et ça, c'est pas rien. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la forme de ce qu'on lui chante. Il aime qu'on lui donne le meilleur de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Alors c'est d'abord, bien sûr, les psaumes, c'est des paroles humaines adressées à Dieu par des hommes, comme vous, comme moi, en réponse à ce qu'ils vivent. mais c'est aussi des paroles de Dieu. C'est ça qui est étonnant. Dans ce qu'on va voir tout à l'heure, ce sont des paroles d'un homme qui a chanté à Dieu, qui a parlé de Dieu, qui a décrit un roi, mais c'est aussi des paroles de Dieu. C'est les deux. C'est les deux. Et nous sommes appelés à prier la parole de Dieu. Les psaumes sont là pour nous apprendre à prier. Et ça a accompagné l'Église pendant des millénaires. L'Église a toujours prié avec les psaumes. On voit dans les éditions, d'ailleurs, le Nouveau Testament est souvent mis avec les psaumes, parce que c'est tellement fort. Donc, en lisant ce psaume, je vous encourage, et en parlant dessus aujourd'hui, je vous encourage à réutiliser ce livre des psaumes dans vos prières, dans votre cœur à cœur avec Dieu. La vocation de l'homme, et ça c'est les psaumes qui nous le disent, c'est pas seulement, vous voyez, un service pour Dieu, une imitation, imiter Dieu, tout ça. Les psaumes nous montrent que la vie avec Dieu, c'est une vie de relation avec lui, et c'est un culte qu'on a à rendre à notre Dieu. Les psaumes étaient lus dans des cultes. Et la vocation de l'homme, c'est de rendre un culte à Dieu. Le culte que nous faisons aujourd'hui, c'est capital, vous savez. C'est capital. Et c'est un culte de tous les jours. Le culte que nous avons à rendre à Dieu, c'est dans notre vie de tous les jours aussi. Mais les psaumes nous aident à entretenir et à développer un culte qui plaise à Dieu. C'est ça que... Alors, je vous propose de le lire. On ne va pas le voir dans son ensemble, mais on va déjà le lire. Donc, « Mon cœur bouillonne de belles paroles ». Déjà l'introduction, hein, au chef de cœur, sur les lys, poème des fils de Corée, chant d'amour. Donc, « Mon cœur bouillonne de belles paroles ». Je dis « Mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Saint, ton épée à ton côté, vaillant guerrier. Ton éclat et ta splendeur. Oui, ta splendeur. Élance-toi, monte sur ton char, pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours, à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Les filles de roi sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderies d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès du roi. On les conduit au milieu des réjouissances, de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Aussi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Donc voilà ce psaume 45. Et nous allons nous attarder surtout sur la première partie. Vous savez, il y a deux parties. Il y a une première partie qui parle du roi, qui parle des noces d'un roi. Certains disent qu'il s'agit de Salomon avec une des sœurs de Pharaon. Et puis, la deuxième partie parle de la reine. Et comme on va le voir, la reine... Ça nous parle de nous, de l'Église, la reine. Alors, on va s'attarder surtout sur cette première partie. Alors, il est écrit en l'honneur d'un roi. Nous avons ici les descriptions d'un mariage et de cette princesse probablement étrangère. Et vous savez, ce n'est pas à mépriser. Dieu s'intéresse à l'amour des hommes. Le Cantique des Cantiques, dans la Bible, on a l'amour humain est important pour Dieu. Parfois, on pourrait dire, bon, on efface ce côté-là et tout ce psaume nous parle de l'amour de Dieu, de la personne de Jésus. Eh bien non, ce psaume nous parle d'un roi qui aime sa reine et qui va en se marier. Et c'est un amour humain. La parole de Dieu chante l'amour humain comme n'étant pas quelque chose à mépriser, mais quelque chose d'important. Bien sûr, dans le cadre de ce qu'il nous donne dans sa parole. Mais voyez, c'est quelque chose d'important. L'amour humain, ce n'est pas seulement un symbole de l'amour de Dieu. L'amour humain est important dans la vie de tous les jours. Mais ce niveau-là, ça n'exclut pas un autre niveau, un niveau plus grand, plus large. Et ça nous parle, ce psaume-là, nous parle du Messie. Les Juifs, vous savez, ils commentaient les psaumes, ils commentaient les écrits dans les Targoums, mais il y a un écrit qui parle du psaume 45 et qui nous dit ce psaume parle du Messie. Ce psaume nous parle de celui que nous appelons, nous, Jésus. Alors, voyez cette première partie, le cœur, il est dit, mon cœur bouillonne de belles paroles. Le cœur, c'est ce qui voit Dieu. La Bible dit, les cœurs purs verront Dieu. Le cœur nous permet de voir Dieu. Le cœur nous permet de voir la beauté de Dieu. Ce n'est pas avec les yeux d'une intelligence seulement. Le Seigneur veut toucher nos cœurs parce que c'est avec le cœur qu'il veut être adoré. C'est avec le cœur qu'il veut être aimé. C'est avec le cœur qu'il veut être servi. C'est une affaire de cœur. Et nous allons voir trois choses dans ce psaume. Surtout trois. Dans les premiers versets, il est parti de la beauté du roi. On va parler de cette beauté du roi. Dieu veut que nous voyions que le roi, notre roi, il est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Ensuite, on va parler de la vaillance du roi, versets 5 et 6. C'est un guerrier, c'est un roi qui monte sur son char, il a son épée. Ça veut nous dire quoi tout ça? Et ensuite, il nous parle de l'autorité du roi, ton trône, ton sceptre de droiture, etc. Ça nous parle de l'autorité du roi, les versets 7 à 9. Donc ces trois choses, la beauté du roi, la vaillance du roi, l'autorité du roi, c'est pas seulement de Jésus que ça va nous parler, mais ça va nous interpeller nous-mêmes, ici, maintenant, parce que ce psaume nous parle pour nous aujourd'hui aussi. Et ce roi, je vous rappelle ce qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, des rois, pour le servir. Nous sommes tous, tu es une reine, tu es un roi. Dis à ton voisin, tu es un roi, tu es une reine. Parce que là, je crois qu'il y en a peut-être qui ont du mal à le croire. Tu es un roi, tu es une reine. Donc ce psaume qui nous parle du roi, il y a quelque chose qui nous parle de nous et qui va nous parler de toi. Ces vacances, nous avons eu l'occasion d'être en famille et d'avoir notre nièce, Margot, une petite fille de 2 ans maintenant, qui avait reçu un habit de princesse. Et elle était dans cet habit toute contente. Alors je fais une photo et puis elle se tourne, elle dit « Et comme ça aussi ?» Déjà la star. Et ce désir de princesse, c'est parce que nous sommes appelés à être donc des rois et des reines. Et nous voyons ça dans ce psaume. Donc ce psaume ne va pas seulement nous parler de Jésus, mais il va nous parler aussi de nous-mêmes. Donc la beauté du roi, la beauté du roi. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a lu ce psaume, il est sur les lys, il est écrit dans l'introduction. Il se chantait sur le chant des lys. Qu'est-ce que ça va nous dire ça? C'est quoi le chant des lys? Eh bien, les lys, c'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la grâce. C'est le symbole du charme. Et le lys, c'est qui? C'est Jésus. Le lys des vallées. Donc, le lys, ça nous parle de la pureté, de la beauté. Et je ne sais pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, chanter ce psaume sur le chant des lys. Mais c'est ce qu'il devait faire. Et le chant des lys, c'est le chant de la beauté. C'est le chant du charme de Jésus. C'est Jésus, le lys des vallées. Mais il est dit qu'il n'est pas question ici du lys, mais des lys. Hein? Sur les lys, il est dit. Et là, c'est intéressant. Parce qu'un commentateur, c'est Luther, qui disait que les lys, ça nous parle de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des lys du Seigneur. Tu es un lys du Seigneur. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir chez soi de temps en temps un lys, parce qu'il est tellement riche de signification. Nous sommes les lys du Seigneur, rachetés par lui, blanchis par lui. Et quand on dit à Jésus, tu es le plus beau des lys, eh bien le Seigneur, il dit de toi, tu es un lys aussi. Hein? Alors voilà. Alors, je ne sais pas, juste avant le psaume 45, on avait un psaume, le psaume 44, hein, vous saviez ça, bien sûr. Mais il est dit, il terminait ainsi, « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous » C'était un cri vers Dieu. Et le psaume 45 attaque en disant, « Voilà, mon cœur bouillonne de belles paroles pour le roi. » Vous savez, il y a des moments où on est dans la détresse et le Seigneur nous dit, « Regarde à moi, regarde au lys que je suis, chante-moi un chant d'amour. » Et après, il y a une vision de Dieu extraordinaire et nous n'avons plus la dépression du psaume 44 de la fin. Voyez, donc mon cœur bouillonne de belles paroles. La beauté du roi, la beauté de ce lys fait qu'il y a quelque chose de beau qui se lève en nous. Si nous sommes beaux ce matin, parce que je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes beaux quand même. Hein. Vous n'êtes pas dans la glace, peut-être dans la glace, vous étiez déçus ce matin. Mais le Seigneur, quand il vous voit beau, parce qu'il vous voit au travers de l'œuvre de son Fils. Donc vous êtes beaux. Et cette beauté de Jésus, ça fait jaillir quelque chose de beau en nous. Quand il y a une prière qui vient de notre cœur, Dieu la voit comme un beau parfum, comme quelque chose de beau. Quand il voit son Église qui loue le Seigneur, qui se lève dans le froid du dimanche matin, qui sort de son lit tiède et douillet pour aller dans un culte, eh bien le Seigneur voit quelque chose de beau là, d'accord ? Alors mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Donc la beauté de Dieu fait que l'on donne des belles paroles pour notre roi. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. En fait, le roseau, il est question du roseau. Ils écrivaient avec des roseaux à l'époque. Et est-ce qu'il y a, et c'est la question que je pose, est-ce qu'il y a ce matin un chant dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a un chant d'amour dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a un psaume pour ton roi ? Et ça, c'est rendre un culte à Dieu. On peut passer des cultes à côté, sans qu'il y ait rien qui sorte de nos cœurs. On chante par tradition, tout ça, mais on oublie. N'oublions pas qu'on chante un chant d'amour pour notre roi. Alors, voilà, tu es le plus beau, Seigneur, des fils de l'homme. Tu es le plus beau. Son cœur, quand il commence à méditer sur Dieu, quand ton cœur commence à méditer sur Dieu, le Saint-Esprit vient et il commence à te faire voir. Il commence à te faire voir, ton roi. Mais il faut commencer par le début. Commencer par dire, Seigneur, voilà, je veux te prier, je veux te louer. Mon cœur aime le Seigneur. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Dieu nous a dit, tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur. Donc, ton cœur, il est appelé à se tourner vers Dieu, à l'aimer, à dire, tu es le plus beau des fils de l'homme. Un cœur qui se tourne vers Dieu, c'est un cœur qui reçoit de lui. Quand on se tourne vers Dieu, on se branche vers lui et on reçoit de lui. En hébreu, le mot beau, en fait, il est dit beau, beau es-tu. C'est deux fois qu'il est dit beau. Beau, beau es-tu, Seigneur. C'est vraiment, le psalmiste ici, il est subjugué par la beauté de Dieu. Et le Saint-Esprit, il en rajoute une couche. Parce que quand on se tourne vers Dieu, le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit, il est sur cet écrivain, il va le remplir. Et toute cette méditation du roi, eh bien, va être transformée, boostée par le Saint-Esprit. Hein? Et ça, c'est la... Alors, quand il est dit, tu es le plus beau des fils de l'homme, le fils de l'homme, ça nous dit quoi ? Ça nous parle de Jésus. Et fils de l'homme, ça veut dire, Jésus, il n'est pas seulement Dieu, mais il est devenu homme. On vient de la période de Noël, là. Jésus, il était homme. Il s'est incarné, il s'est fait chair. C'est pour ça qu'il est dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu n'es pas seulement un Dieu comme ça derrière les nuages, mais tu es venu parmi nous. Et parmi tous les hommes, tu es le plus beau. Alors la beauté ici, alors il y en a qui le voient avec des cheveux longs, tout ça. On a un des professeurs au collège Daniel, les élèves l'appellent Jésus, tellement il est beau. Alors on ne va pas vous dire qui c'est, mais c'est pas ça. La beauté de Jésus, c'est cette beauté qui émane de son cœur, de sa personne, de son caractère. La beauté de Jésus, c'est qu'il n'a jamais péché. La beauté de Jésus, c'est qu'il nous aime, c'est son amour, c'est l'amour pour son Père, c'est son amour pour la justice, c'est sa sainteté, c'est tout ça sa beauté, c'est tous ses attributs. Tu es le plus beau des fils de l'homme, beauté en sagesse, en perfection. Et le Seigneur, non seulement il est beau, mais son ministère consiste à embellir les frères et sœurs que nous sommes. Et on voit ça par exemple dans Ézéchiel 16, il prend quelqu'un qui est tout nu, et il le revêt, il en fait une princesse. Dieu embellit nos vies. Dieu est mort, Jésus est mort et ressuscité pour transférer tout ce qu'il a lui à nous. Il a été fait sagesse pour nous, par exemple, 1 Corinthiens 1:30. Et alors, on est embelli. Et on est embelli chaque fois qu'on le regarde, qu'on le contemple. Voyez ? Chaque fois qu'on est ensemble et qu'on le loue, nous sommes embellis. Alors, tu es le plus beau, mais en même temps, Dieu il te regarde et il dit, mais toi aussi, tu es beau. Et c'est cet échange d'amour qui fait qu'on peut psalmodier en l'honneur de son nom. Alors le Fils de l'homme, c'est Jésus, sa beauté. La grâce est sur tes lèvres. Jésus, il nous est dit de lui, il avait la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Il nous est dit que tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Que tout ce qu'il faisait, c'était plein de grâce, plein de vérité. La loi, c'était venu avec Moïse, mais avec Jésus est venue la grâce. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça me concerne que la grâce soit répandue sur les lèvres de Jésus? Eh bien, c'est que non seulement Jésus veut que tu entendes les paroles qu'il dit de toi, sur son Église, les paroles qu'il dit sur l'humanité, mais il veut en même temps que toi-même, tu sortes des paroles de grâce sur ton épouse, sur tes amis, sur tes enfants. Alors, on ne va pas faire le sondage ce matin. Quelle est la dernière parole d'amour et de grâce que tu as reçue de ton mari ou de ton conjoint ou de ton ami ou de ton papa ou de... Mais je crois que nous sommes un peuple appelé à prononcer des paroles de grâce comme Jésus l'a fait. Et ça, c'est les enseignants qui vont commencer là, maintenant, la rentrée, les paroles de grâce sur vos bouches. N'est-ce pas, monsieur Cyril et Bénédicte, que je vois en face de moi. Donc les paroles de grâce, qu'elles soient sur nos bouches. En tout cas, elles étaient sur la bouche de Jésus. Chaque fois que Jésus nous parle, c'est toujours des paroles de grâce et d'amour. Ce n'est jamais des paroles d'accusation. C'est quand même facile à discerner. Il y en a qui se disent, comment je peux discerner? Eh bien, c'est ça. Dieu nous parle avec grâce et avec amour. Alors voilà, et ça, c'est une interpellation pour nous. De parler comme il a parlé lui. Et ensuite il est dit, Dieu t'a... c'est pourquoi donc la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni. Quand tu répands la grâce autour de toi, Dieu te bénit. Nous récoltons ce que nous semons. Si nous semons la grâce, nous récolterons la grâce. Si nous semons l'amour, nous récolterons l'amour. Et cette année 2008, il y a intérêt à bien semer. Je ne sais pas les semences que tu as décidé d'avoir dans les poches pour les prendre à pleine main, mais des semences de grâce. Et on en a besoin. On en a besoin, déjà pour se supporter les uns les autres. Hein ? Vous ne trouvez pas, parfois, on a besoin de ces semences de grâce et d'amour. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, moi je suis un Dieu de grâce. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Le « c'est pourquoi », ça vient de « tu as des paroles de grâce, c'est pourquoi Dieu te bénit ». Tu veux la bénédiction de Dieu ? Qu'est-ce qui est dans ta bouche ? Et ce qui est dans ta bouche, ça vient de ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Alors voyez, ce roi ici est béni, notre Messie est béni, mais nous sommes aussi bénis. Nous sommes, tu es béni. Est-ce que tu en as bien conscience aujourd'hui? Alors, une deuxième partie, alors on change un peu de ton. Il est dit, ceins ton épée à ton côté, vaillant guerrier. On se dit, mais c'est quoi ce changement de ton? Tu es beau, tu es magnifique, plein de grâce. Et tout d'un coup, vaillant guerrier, ceins ton épée. Ça y est, c'est la guerre, c'est le branle-bas de combat. On dit, mais qu'est-ce que c'est ce psaume? Tout d'un coup, eh bien, notre Jésus, notre Messie, il est à la fois ce Dieu de grâce, mais il est à la fois ce prince terrible. Terrible aussi. Il est aussi un juge. Un juge de toute la terre, il est celui qui est un guerrier, il est les deux, il est le lion, on l'a chanté aussi ce matin, il est cet agneau plein de grâce, il est ce lion terrible, terrible. Et c'est lui qui reviendra, il est venu comme un agneau, il reviendra comme un lion, comme un vainqueur, avec son épée, Apocalypse nous parle de cela. Alors, on voit ici la notion de courage, vaillant guerrier. Quel courage il a fallu à Jésus pour aller jusqu'au bout pour toi et pour moi. Quel courage il a fallu à Jésus. Vous savez, le courage quand il reviendra sur son cheval avec son épée, juger les nations, tout ça, ça c'est pas vraiment là qu'est le courage. Le courage, il était lorsqu'il est venu à la croix et qu'il est mort pour toi, pour moi et qu'il est allé jusqu'au bout. Et ça c'est notre guerrier. Et c'est à la croix qu'il a brisé la puissance de l'ennemi. Ce vaillant guerrier, c'est à la croix qu'il a annihilé tout ce qui s'élevait contre nous pour nous accuser, nous condamner. Donc Jésus est notre guerrier. Mais il n'est pas, c'est pas seulement lui qui est notre guerrier. La parole de Dieu nous dit, toi aussi, son Église en est appelée à être ce vaillant guerrier. Et vous connaissez par exemple Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4, « Tu es belle, ma compagne, tu es belle, charmante comme Jérusalem. » Alors tout ça, c'est mignon. Tu es charmante, tu es belle, on continue. « Mais tu es terrible, comme des troupes sous leur bannière. » Et là, nous voyons les deux aspects de l'Église. Un aspect d'agneau, un aspect de douceur et de grâce, mais terrible contre les puissances de l'ennemi. Et quand nous nous réunissons, que nous avons nos tabernacles, nos réunions, ou quand on intercède ensemble, je peux vous assurer, c'est souvent qu'il y a ce côté terrible qui se lève. Et j'espère que la semaine prochaine, dans ce tabernacle et d'autres moments, nous exerçons aussi dans l'intercession, dans le combat, dans la prière, ce côté terrible de l'Église, qui exerce les jugements aussi avec son roi. Alors nous avons aussi Éphésiens 6, Cantique des Cantiques, on l'a lu, chapitre 6, verset 10. « Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ?» Et là, il est question en prophétie de l'Église. Éphésiens 6 aussi, les armes du croyant. Donc voilà, le courage, Dieu nous demande d'avoir du courage aussi. En retour, est-ce qu'en 2008, on est prêt à avoir du courage? Il y a des situations au milieu de nous où il y a des maladies, il y a des cancers dans des familles, il y a des personnes âgées qui commencent à pas être toutes seules. Moi, je viens de ma famille, vous savez, c'est pas facile. On se dit, mais combien de temps ils pourront tenir seuls? Ils habitent à des centaines de kilomètres. Donc on a tous nos défis. Et le Seigneur voudrait qu'on soit courageux, et qu'on ne baisse pas les armes au premier combat qu'on va avoir. Et ce psaume nous exhorte au courage. Ceins ton épée, et il le dit à toi aussi, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur. Alors l'éclat, la splendeur, eh bien, bien sûr, Jésus est plein d'éclat de splendeur. Ça nous parle aussi des positions qu'on peut avoir, peut-être des positions d'autorité qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas là pour écraser, mais qui sont là pour servir. Et je pense aux élections que nous allons avoir, je pense aussi aux positions d'autorité que certains d'entre nous, de son corps, pourront avoir parmi nous. Mais cet éclat, il est pour le service de la justice et pour le service des autres, et non pas pour se servir des autres. Voyez. Donc donner le meilleur de nos vies pour les autres, comme Jésus. Et l'éclat, Jésus était plein d'éclat, de majesté, il a laissé tout ça, il a tout laissé pour venir vers nous. Et à la croix, il n'avait ni éclat, ni beauté. Et pourtant, c'est par amour pour nous qu'il a fait cela, qu'il est allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc l'éclat de Jésus vient de ce qu'il s'est fait homme et de ce qu'il est allé jusqu'au bout de son obéissance pour nous sauver. Et c'est pourquoi maintenant, il y a un tel éclat de gloire. De la même façon, une Église éclatante est une Église qui va servir, est une Église qui va venir dans l'humilité, dans le service des autres, dans l'amour, dans la compassion. Et là, dans ces attributs-là, il y a de l'éclat. Sinon, ce n'est pas de l'éclat, c'est du tralala, quoi. Hein. C'est l'éclat de l'Église, comme pour Jésus, vient du service pour l'humanité et de libérer l'amour. Alors ensuite, il est dit, regardez ce verset, on est toujours dans ce côté vaillant. Ceins ton épée, ton éclat, ta splendeur. Oui, ta splendeur. Et lance-toi, monte-toi sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Alors là, ces trois noms, c'est intéressant. Pas seulement la vérité sans l'humilité. Il n'y a pas de vérité sans humilité. Ça n'existe pas. L'humilité avec la vérité. Il n'y a pas de vérité sans justice. Il n'y a pas de justice sans humilité. Les trois vont ensemble. Et ça, c'est ce que Dieu il nous adresse ce matin. Il voudrait que nous nous levions pour défendre la justice. L'amour, quelque part, ne suffit pas, vous savez. Nous ne sommes pas seulement là pour aimer. Nous sommes là aussi pour exercer la justice selon Dieu. Et ça, c'est très important. Comment peut-on dire aux gens qu'on les aime quand on accepte des situations d'injustice, etc. On prend Martin Luther King. L'amour de Dieu s'est manifesté au travers d'une dénonciation de l'injustice. Et je crois que Jésus n'a jamais fait de compromis par rapport à l'injustice. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustice. Et l'Église est appelée à être un instrument d'amour, mais aussi un instrument de justice. Mais cet instrument de justice s'exerce dans l'humilité. Comment Jésus il a exercé la justice? en mourant sur une croix. C'est comme ça qu'il a exercé la justice. En se donnant pour nous. C'est comme ça qu'il a été fait justice à notre place. Il a pris sur lui. Donc l'exercice de la justice, c'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Mais nous sommes appelés, nous sommes interpellés par rapport à ça. Vous voyez, quand il est dit ici, pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice, l'humilité ici, ça nous parle de Jésus. Vérité, humilité, justice, c'est la personne même de Jésus. Voyez. Mais nous sommes appelés nous-mêmes aussi à être des instruments de justice dans sa main, dans ce sens d'une justice qui sert et parfois qui dénonce aussi. Parfois qui dénonce. Alors, voilà, parfois, eh bien, ça demande à ce qu'on prenne des coups, parfois. Il y a Arnaud le Jeune, un père de l'Église, disait « Vérité, c'est le Père. La douceur, l'humilité, ça nous parle du Fils. » Et ensuite, le dernier terme, la justice, eh bien, nous parle du Saint-Esprit. Nous avons aussi d'autres citations. Athanase, par exemple, il dit « En mentionnant la douceur après les armes, il indique que le règne de Christ est spirituel. » Voyez, on a les armes, monte sur ton char, ceint ton épée. Et ensuite, il est dit « Pour la cause de l'humilité. » Donc, les armes, ce n'est pas des armes de guerre pour dominer, pour écraser. C'est des armes qui vont pour l'humilité, c'est-à-dire c'est des armes spirituelles. Hein. Voilà. Ensuite, que ta droite te montre des exploits formidables. Alors ça, Jésus a fait des exploits, mais nous sommes appelés à en faire. Et je peux vous dire une chose, je suis persuadé que la destinée, le sens de notre vie, c'est de faire des exploits avec Dieu. Et je crois qu'on sera frustré dans notre vie si on n'a jamais pu accomplir avec lui des exploits. Avec lui, sans lui on ne peut rien faire. Mais nous sommes appelés à accomplir des exploits avec Dieu. Ces exploits ne se jugent pas selon les hommes. Ce n'est parfois pas des exploits qui se voient, qui en mettent plein la vue. Mais nous sommes appelés à faire des exploits avec Dieu. C'est-à-dire à nous dépasser nous-mêmes. Et peut-être, je ne sais pas comment vous voyez aujourd'hui, peut-être comme des petites sauterelles, et je ne sais pas, on est un peu fatigué, tout ça. Mais le Seigneur voudrait que l'on se voit comme des gens qui vont faire des exploits. Parce que c'est la parole de Dieu. Psaume 60, verset 12. Hein. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 108, verset 13. Les exploits. C'est notre lot de faire des exploits. Au niveau des écoles chrétiennes, au niveau de ce collège Daniel, à tenir à bout de bras, dans l'intercession, dans la foi, nous sommes appelés à continuer à faire des exploits. Ce passage dans cette salle, les exploits au niveau de la foi, au niveau des travaux que nous avons, au niveau de la ville à toucher, au niveau de cette association culturelle, de servir les pauvres, nous avons à faire des exploits. Et ça, ce psaume nous dit, ben voilà, voilà, des peuples tomberont sous toi parce que tu vas faire des exploits formidables. Il dit ensuite, voyez, tes flèches sont aiguës. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que je vois que ça avance. Juste une question par rapport à Jésus et à la justice. Il nous est dit, pour la cause de la vérité et de la justice, tes peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Les flèches de Dieu, pour nous, c'est des flèches d'amour. Dieu est un Dieu, lorsqu'il lance des flèches et qu'il touche les cœurs de ses ennemis, il les transforme en ses amis. Par exemple, Paul, sur le chemin de Damas, était ennemi de Dieu. Une flèche de Dieu vient, touche son cœur et le transforme en ami. Les flèches de Dieu sont des flèches de délivrance, sont des flèches d'amour. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée disait « Tu m'as blessé d'amour, Seigneur. » Une flèche d'amour l'avait touchée. Et Dieu voudrait, pareil, qu'on reçoive ces flèches d'amour de sa part, mais qu'on puisse aussi tirer des flèches d'amour qui désarçonnent l'ennemi, qui le déstabilisent, parce que l'amour est une arme tellement importante. Mais encore une fois, un amour qui va avec la justice. Et il nous est dit dans ce psaume de haïr le mal et d'aimer la justice. Et est-ce que nous aimons assez la justice? Est-ce que nous haïssons assez le mal? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on a assez de haine pour le mal, comme nous le dit ce psaume? Alors voilà, ça, je laisse la question à chacun de nous. Et ensuite, maintenant, on parle de l'autorité de Dieu. Donc, voyez, vaillance de Dieu, nous sommes appelés à être vaillants, avec les bonnes armes, avec la bonne attitude. Mais ensuite, autorité de Dieu, ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours, à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Donc nous avons ici la véritable autorité. Elle se manifeste en disant, voilà, ici, ton trône, ô Dieu. Donc quand il est dit ô Dieu, il ne peut pas s'agir d'un roi. Même le roi Salomon, le psaume nous dit, ton trône, ô Dieu. Ce n'est pas une description d'un mariage d'un roi. Il s'agit bien du Messie, il s'agit bien de Jésus. Jésus, le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Laissons-nous redresser par cette droiture. Il est dit ensuite, tu aimes la justice. C'est pourquoi Dieu t'a oint. Le oint, c'est qui? C'est le Christ. Vous savez, le mot Christ, ça veut dire oint. Ça veut dire oint. Ce passage nous parle de Jésus. Mais voyez, ce que j'aimerais souligner ici, c'est tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Saint Augustin disait, en haïssant ce que Dieu est, H-A-I-T, hein, tu seras l'ami de Dieu. Et ainsi tu aimeras ce qu'il aime. Prends à dégoût l'iniquité qui est en toi, mais aime en toi la créature de Dieu. Et là, il y a une sagesse. Prends en dégoût l'iniquité qui est en toi, mais aime la créature qui est en toi. Et c'est les deux. Donc, vous savez, Dieu veut faire grandir notre haine, la haine pour le péché, pour notre péché. Il veut faire grandir notre dégoût. Il veut faire grandir notre colère par rapport à des situations qui ne devraient pas être comme elles sont. Et d'ailleurs, saint Augustin disait, la colère, c'est la sœur de l'espérance. Tu ne peux pas vraiment espérer si tu n'es jamais en colère. Il y a des colères qui sont des colères de Dieu par rapport au péché qui domine, par rapport à tout ça. Nous sommes appelés à haïr davantage, voyez, ce que Dieu est. Et à aimer ce qu'il aime, bien sûr. Et ça, ça donne une autorité. Regardez, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint. Une église qui aimera la justice et qui haïra la méchanceté sera ointe par Dieu. Nous avons ici des clés pour la vie de l'église dans les temps qui viennent. Aimons la justice, détestons la méchanceté. C'est pourquoi Dieu t'a oint. Donc le oint, ça nous parle du Christ, hein, lui qui a été oint. Et Dieu t'a oint par privilège sur tes compagnons. Les compagnons, c'est qui? Eh bien, c'est nous tous. Nous sommes les compagnons de Jésus. Mais cette onction sur Jésus, bien sûr, elle est plus grande que sur n'importe quel, lequel de ses compagnons. Cette huile de Jésus, la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tous tes vêtements. Alors c'est quoi ça? C'est quoi cette huile? Est-ce que c'est une huile simplement d'onction qui guérit tout ça? C'est quoi cette huile d'onction? Eh bien cette huile d'onction, c'est l'huile qui nous parle de la mort. La myrrhe dans la Bible nous parle de la mort. Jésus a été embaumé et à la croix on lui a présenté de la myrrhe, tout ça. La myrrhe, ça fait partie de cette huile dont on se sert pour couvrir les morts, les embaumer aussi. Donc, l'onction, elle vient quand? Elle vient quand on accepte de mourir à nous-mêmes. L'onction, elle vient là. Quand on accepte de laisser nos attentes, nos impatiences, nos sales caractères, parfois on dit, Seigneur, je te remets cela, j'accepte de mourir à ça. Et là, l'onction, elle vient. L'onction, ce n'est pas un plus. Tu gardes ta vie comme elle est, puis il y a un plus, c'est l'onction. Parfois, on recherche l'onction pour l'onction, on pense que ça va tout transformer. Ça ne transforme rien du tout. L'onction, elle vient quand tu acceptes. Tu dis, voilà, tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint. La myrrhe et la louesse. Tu veux être oint? Eh bien, l'onction, ça fait partie aussi de ça, d'accepter cette mort qui travaille dans nos vies en même temps que la vie. Les deux choses travaillent toujours en même temps. Et cette année 2008, on peut se souhaiter à chacun un peu plus de mort, mais un peu plus de vie aussi. Pour plus d'onction, si nous aimons plus la justice, si nous aimons plus la justice, si nous haïssons un peu davantage la méchanceté, il y aura une onction supplémentaire pour nous tous. Et cette onction, c'est aussi de la myrrhe. Voyez. Donc ça nous parle de la mort de Jésus. Il a été oint parce qu'il a accepté de mourir sur cette croix. Et il a méprisé la souffrance de la croix en vue de la joie qu'il voyait, la joie de la victoire. Eh bien, il est question d'une huile de joie ici. Cette huile de joie, c'est ça. C'est parce qu'au travers de cette souffrance, de cette mort, il y a une joie, il y a une libération. Et c'est ça, la joie de l'onction, c'est ça. Vous voyez, donc l'onction, ce n'est pas un plus, l'onction, c'est un moins. C'est un moins dans ta vie pour qu'il y ait plus de lui et de sa joie à lui. Voilà. Alors, Jésus, c'est le modèle. La gloire de l'homme, et ça j'aimerais le répéter pour les hommes en particulier, et les pères en particulier, ça s'adresse à chacun, mais aux hommes en particulier. La gloire de l'homme, c'est de s'oublier soi-même pour s'occuper des autres. La bassesse de l'homme, c'est de s'occuper de soi-même et d'oublier les autres. Et donc, le Seigneur nous encourage à lui ressembler, et c'est-à-dire à ne plus nous occuper de nous-mêmes, mais à nous occuper des autres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit, les instruments à cordes te réjouissent. Donc, les parfums, tous tes vêtements, tout ça, ça monte dans ce palais d'ivoire. Alors, les parfums, c'est quoi ? Les parfums qui vont parfumer tous les vêtements. Les vêtements, c'est nous. On est des beaux vêtements, le saviez-vous ? Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Qu'est-ce qui va revêtir le corps ? Les vêtements. Et les vêtements, ça nous parle de l'Église. L'onction, elle descend de la tête sur la barbe, sur les épaules et jusqu'au bord des vêtements d'Aaron, rappelez-vous. Et ça nous parle de l'Église. Nous sommes le vêtement. Et Dieu voudrait parfumer. Alors, ici, les parfums, c'est les parfums de Christ d'abord. Et Jésus, il est plein de parfums absolument exceptionnels. Son amour parfume. Sa sagesse, elle parfume. Son pardon est un parfum. Tout ça, c'est des beaux parfums. Sa force, sa justice, c'est un parfum. Les excellences de Christ sont des parfums. Mais nous-mêmes, nous sommes appelés à être un bon parfum. Rappelez-vous 2 Corinthiens 2, verset 14-15. Il est dit, nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Donc, ce psaume, déjà, nous parle de toi, de moi. Nous parle de l'Église qui est appelée à dont le parfum est appelé à remplir le palais. Le palais, c'est quoi ? Eh bien, le palais, c'est son Église. Les palais d'ivoire, l'ivoire, c'était très précieux. Ça nous parle de l'Église. Mais les palais, ça nous parle aussi. Le premier palais, c'est quoi ? D'après vous, c'est quoi le premier palais ? Avant l'Église. Le premier palais dans lequel Dieu veut habiter. C'est nous, c'est nos cœurs. Et de ces palais-là, Dieu veut en faire des maisons parfumées, de façon à ce que le parfum jaillisse dehors, se répande sur tous les vêtements. Il y a plusieurs parfums, il n'y en a pas qu'un. Peut-être que tu as développé un parfum, mais il y en a d'autres que Dieu veut développer. Il y a des parfums. Et puis je pense aussi que nous sommes tous différents. Le parfum de Stéphane, c'est quoi que tu prends comme parfum, Stéphane ? Non, le parfum de Stéphane n'est pas le même que celui de Vito. D'accord ? Il y a, de la même façon qu'il y a diversité de parfums dans le monde, il y a diversité de parfums dans qui nous sommes. Notre adoration à chacun est différente. Et Dieu a besoin de tous les parfums pour le bouquet dans sa maison. Donc voilà, rappelez-vous aussi cette dame dans les évangiles qui touche les vêtements de Jésus et qui a été guérie. Et ça, c'est une préfiguration. Il y a un jour, et c'est déjà quelque part en petit, des gens qui touchent à l'Église de Dieu, qui touchent à toi et qui vont recevoir une guérison. Guérison du cœur, guérison de la tristesse, guérison à différents égards. Mais voyez, est-ce que les gens, quand ils touchent à notre manteau, il y a une guérison ? Dieu veut ça. Ça peut être un sourire, ça peut être une parole de bénédiction. Tu ne peux pas savoir. Moi, tout à l'heure, quand j'ai vu Pierre, là, bon, il n'est plus là, mais il n'est plus pareil qu'il y a 15 jours, Pierre, notre Pierre. Il a changé, il a de la joie dans les yeux. Ce n'est pas le même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a du Christ qui est venu impacter sa vie. Et ça, c'est le plus beau. Donc, les parfums, ça, c'est Dieu. Dans les palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Donc, Origène disait, les harpes, c'est les églises. Les palais, ce sont les églises que Dieu a fondées. Je vous lis un petit passage. « Veux-tu prendre au figuré ces palais d'ivoire ?» C'est saint Augustin. « Ce sont les vastes demeures, ces immenses tabernacles de Dieu, les cœurs des saints. » Ces rois eux-mêmes qui dominent leur chair, qui s'assujettissent des bruyantes passions humaines, qui affligent leur corps et le réduisent en servitude, parce que c'est là que les filles des rois font les délices, ces délices. Toutes ces âmes qui sont nées de la prédication évangélique des saints sont filles de rois. Elles sont filles de rois aussi, ces églises, filles des apôtres, car le Christ est le roi des rois. Et c'est là que, en conclusion, donc rappelez-vous, la beauté de notre roi qui fait qu'on prend conscience que nous aussi, on est beau. La vaillance de notre roi qui fait qu'on prend conscience que nous aussi, on est appelés à être vaillants. Et aussi l'autorité de notre roi. Et nous sommes appelés à prendre conscience que nous aussi, on doit exercer l'autorité au nom de Jésus. Et en conclusion, j'aimerais juste évoquer quelques aspects des derniers versets de ce psaume. Il est dit « La reine est à ta droite. » La droite, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est notre position en tant que reine. Et le premier verset qu'il dit, au verset 11, il dit « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. » Eh bien ça, c'est le job de l'Église. C'est quoi ? Écoute, Shema Israël, écoute ma parole. La foi, elle vient de quoi ? Elle vient de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute la parole de Dieu. Donc, écoute, entends ma fille, vois, voir. Dieu veut ouvrir nos yeux. Mais d'abord, il veut ouvrir les yeux de la foi. Donc, qu'on écoute d'abord et on pourra voir après. Et vois, ma fille. Donc, écoute, entends, ma fille, vois, prête l'oreille. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Je ne sais pas, c'est quoi pour vous la maison de votre père ? Mais c'est tout ce qui nous tient. Tout ce qui nous tient loin de Dieu. Nos traditions, nos habitudes, notre culture parfois, des aspects de notre culture. Ça nous tient en bas. Et Dieu te dit, quitte la maison de ton père maintenant. T'es quelqu'un de grand, quitte, lâche ces cordages-là qui te tiennent captifs. Délivre-toi toi-même, quitte la maison de ton père, quitte tes habitudes qui plaisent pas au Seigneur. Donc écoute, vois, quitte la maison de ton père. Et ça c'est le travail de l'Église. Et ensuite, on la voit merveilleuse, il est dit, puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Et ça c'est la position de notre cœur devant lui. Et le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ça, c'est étonnant. Le Seigneur, quand il te voit ce matin, quand il regarde son Église, il désire son Église, il la trouve belle. Il veut passer du temps avec elle. Il l'aime, il la chérit. Il porte ses désirs sur toi. Ça, c'est... On se dit... parfois, on a du mal déjà à se supporter soi-même. Alors, on dit, si Jésus, en plus, il porte ses désirs sur moi, c'est quoi ce truc ? Mais c'est ce que la parole de Dieu me dit. Parce qu'il te voit au travers de l'œuvre de Jésus. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Le roi est épris de ta beauté. Épris de ta beauté. Tu es éblouissante pour lui. Alors, ce psaume termine en disant, il y a deux choses. Je rappellerai ton souvenir. Tes fils prendront la place de tes pères. Nous voyons que l'adoration de Dieu, la reconnaissance de qui il est, le fruit, c'est des fils et des filles. Bien sûr, des fils qui vont prendre la place des pères, qui vont devenir des princes. Donc voyez, si nous ne voyons pas que nous sommes beaux, si nous ne sommes pas vaillants, et si nous n'exerçons pas l'autorité, nous ne verrons pas des fils dans le pays. Dieu a été beau, vaillant et plein d'autorité pour nous, afin de nous transférer cette vaillance, cette beauté, cette autorité, pour que il puisse y avoir des fils qui soient des princes dans le pays. Et ensuite, il est dit, aussi les peuples te célébreront éternellement. Donc, voyez, en faisant partie de son Église, nous sommes appelés à entendre, à voir, à nous prosterner, à être en communion intime avec Dieu, en union avec lui, pour engendrer des fils et pour toucher des peuples. Et on voit que ce chant qui commençait, « Mon cœur bouillonne de belles paroles », à la fin, on touche des peuples, des nations et des fils qui se lèvent. Donc c'est tellement important. Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur ? Tout commence par là. Tout commence par là. Que Dieu nous aide à ce que cette année 2008, des paroles bouillonnent dans notre cœur pour le roi. À ce que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la beauté de ce roi que nous aimons, que nous voulons servir. Que nos reins se saignent dans le sens qu'on se lève. Que ce qui est assis en nous, peut-être il y a des gens au milieu de nous ce matin qui sont les bras baissés, fatigués de la route. Dieu te dit, relève-toi, relève-toi, prends courage, ceins ton épée, prends ton épée, et puis exerce l'autorité que je t'ai donnée. Seigneur, merci pour ce psaume, merci pour ta parole, merci pour le Messie que tu es, le Christ loin de Dieu, merci pour cette beauté qui nous transforme. Merci pour cette vaillance qui nous secoue. Merci pour cette autorité qui nous a été donnée à nous aussi. Toute autorité t'a été donnée pour que nous-mêmes, nous puissions l'exercer en ton nom, Seigneur. Enseigner en ton nom, évangéliser en ton nom. Seigneur, que là où il n'y a pas assez de haine pour la méchanceté, tu nous en mettes, Seigneur. Là où il n'y a pas assez d'amour pour la justice, tu nous embrasses de cet amour, Seigneur. Seigneur, fais vibrer nos cœurs. Et comme le psalmiste, que nous puissions engendrer des fils et des filles et des peuples. Seigneur, nous te prions cela pour cette année en particulier, dans le nom de Jésus. Amen.